VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 7 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
En RDC, 8 militaires accusés de meurtre de civils au Kasaï ont été condamnés hier.
Amnesty International dénonce un climat de peur au Rwanda à l'approche de la présidentielle du 4 août.
En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, candidat à sa propre succession en 2022, mais pas son fils.
Des dizaines de blessés dans des accrochages entre manifestants et forces de sécurité hier à Hambourg, à la veille du sommet du G20, aujourd'hui à Hambourg. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, condamnation hier à Mbujima et de 8 militaires accusés de meurtre de civils. C'est au Kasaï que cela s'est passé. Les peines prononcées vont jusqu'à 20 ans de prison. Le point avec Eddie Sango.
C'est à la suite d'une vidéo qui montrait des hommes en uniforme en train d'abattre des civils dans les Kasaï centrales. Deux militaires ont été condamnés à 20 ans, 3 à 15 ans, 1 à 12 mois, selon leur avocat, Maître Jimmy Bachilé. Les tribunaux militaires de Mbujimaï jugeaient au total 9 militaires. Deux militaires en fuite ont été condamnés par défaut à la prison à perpétuité et le 9e a été acquitté. Ils ont été reconnus coupables, entre autres, de meurtre. Ces militaires étaient d'abord poursuivis pour crimes de guerre dans cette région où l'armée est engagée contre la rébellion. Kamuna Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, souhaite que ces verdicts servent d'exemple à d'autres procès sur d'autres massacres dans les Kasaï, dont l'assassinat de deux experts onusiens.
Au Rwanda, Amnesty International dénonce dans un rapport publié aujourd'hui des attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme, attaques qui ont créé un climat de peur dans le pays et à l'approche de la présidentielle du 4 août. Le rapport de l'ONG est intitulé « Rwanda, un pays en proie à des attaques, des actes de répression et des homicides depuis 20 ans », va élire son nouveau président.
Amnesty détaille ce qu'elle appelle plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'expression et de répression à l'encontre de journalistes, d'hommes politiques et de défenseurs des droits humains depuis 1995, l'année suivant la prise du pouvoir par le Front patriotique rwandais, le FPR, de l'actuel président Paul Kagame. Ceux-ci sont emprisonnés, agressés physiquement, contraints à l'exil ou réduits au silence, parfois même tués, dénonce Amnesty.
En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang a été reconduit à la tête du Parti démocratique de Guinée équatoriale pour une période indéterminée à l'issue du 6e congrès ordinaire du parti au pouvoir. Les résolutions du congrès ont déjoué tous les pronostics sur la succession du président Obiang à la tête du parti. Tout le monde s'attendait à ce que Teodorin Obiang, en procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis, soit nommé successeur de son père. Le président Teodoro Obiang, 74 ans, demeure aussi, à la suite du congrès, le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2022.
L'armée nigérienne a tué mercredi, par erreur, 14 paysans dans le sud-est du pays. Ils ont été pris pour des djihadistes de Boko Haram. Yakuba Kounate, Yakuba Ouedraogo.
Les 14 personnes tuées sont des réfugiés et des déplacés qui étaient rentrés dans leur village près d'Abadam. Ils avaient fui les exactions de Boko Haram et étaient revenus pour préparer leur champ en cette saison d'hivernage. Les militaires ont ouvert le feu sur eux, les prenant pour des combattants de Boko Haram. Les soldats n'étaient pas au courant de leur retour dans cette zone rouge interdite d'accès et près de la rivière Koumadougou qui sépare le Niger et le Nigeria. Dimanche dernier, 9 personnes ont été tuées et 37 filles et garçons kidnappés dans le village de Ngalewa, situé dans la même région de Difa, où le groupe Boko Haram est resté très actif.
Un groupe de 5 élèves gambiens invités à un concours de robotique ici aux États-Unis et qui s'étaient vus refuser mardi les visas d'entrée sur le sol américain, eh bien ils ont finalement obtenu ces visas. Le point avec Solange Niamoulissa.
L'agent consulaire de l'ambassade américaine à Banjul a délivré hier un visa à chacun des membres de l'équipe gambienne de robotique. Cependant, ces adolescents se disent déçus car le coordinateur de l'équipe, Motar Darbo, ne pourra pas les accompagner après un second refus de visa. Le même groupe s'était vu refuser les visas mardi alors qu'il doit assister au First Global Challenge à Washington. Ce concours de robotique où 160 pays seront représentés se tiendra du 16 au 18 juillet et est destiné à promouvoir l'ingénierie et la technologie dans les écoles du monde entier. La semaine dernière, le magazine Forbes a rapporté que 6 jeunes Afghans qui devaient participer à la même compétition se sont vus refuser un visa malgré 2 tentatives. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, les États-Unis appliquent une politique plus restrictive d'accès au territoire américain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La manifestation anti-G20 à Hambourg, en Allemagne, a dégénéré hier en affrontement entre plusieurs milliers de manifestants et la police. Des dizaines de personnes ont été blessées. Eric Manirakiza.
Le rassemblement initié par l'Alliance autonome et anticapitaliste promettait d'être l'un des plus musclés en marge du sommet. Les manifestants les plus extrémistes ont défilé en cagoulé et vêtus de noir, refusant l'injonction de la police de découvrir leur visage. Des heurts ont alors éclaté, les manifestants ont jeté de bouteilles, pierres et pétards sur les forces de l'ordre qui ont riposté au moyen de gaz lacrymogène et de canons à eau. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres interpellées. Les manifestants étaient partis du quartier des Poissons près de l'Elbe et se dirigeaient vers le centre des congrès où le sommet se tient aujourd'hui et demain. Le président américain Donald Trump doit rencontrer à marge de la réunion pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine, hier à Varsovie. M. Trump a sévèrement critiqué la Russie, mais s'est aussi inquiété de l'avenir même de l'Occident. Le chef de la Maison-Blanche s'est également entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel avant le sommet.
Avant l'Allemagne, M. Trump était en Pologne, où il a promis hier à la Corée du Nord une réponse sévère après son tir d'un missile balistique intercontinental, et ce alors que se multiplient les appels à de nouvelles sanctions contre Pyongyang. La Chine a toutefois aussitôt appelé à éviter les discours et actes susceptibles d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne, et la Russie a bloqué un projet américain de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à prendre des mesures significatives contre Pyongyang.
Un traité interdisant les armes nucléaires devrait être adopté aujourd'hui aux Nations Unies, malgré l'opposition des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'autres puissances nucléaires qui ont boycotté les négociations. Les partisans du traité y voient une réalisation historique, mais les États nucléaires le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial actuel de quelque 15 000 têtes nucléaires. Amené par l'Autriche, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, 141 États ont pris part aux 3 semaines de négociations du traité qui préconise une interdiction totale du développement, du stockage et de la menace d'utilisation d'armes nucléaires.
En Irak, les autorités militaires et politiques affirment que la chute de Mossoul est désormais très proche, les forces irakiennes soutenues par les États-Unis s'acharnant à défaire les derniers djihadistes du groupe État islamique retranché dans la vieille ville. Quelque 20 000 civils y restent pris au piège des combats. Sur le front syrien, des combattants des Forces démocratiques syriennes, FDS, sous la couverture aérienne de la coalition, tentaient de progresser dans la vieille ville de Raqqa, dans l'est de la cité encore contrôlée à 70% par le groupe État islamique, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Les manifestations ont continué au Venezuela avec des affrontements entre forces de sécurité et manifestants de l'opposition à Caracas. Cette nouvelle manifestation avait été organisée au lendemain de la violente irruption dans l'enceinte du Parlement, unique institution du pays contrôlée par l'opposition par des partisans du président Maduro. Par ailleurs, dans un nouveau défi au gouvernement, la procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, entrée en rébellion contre le président socialiste, a empêché jeudi l'entrée au ministère public d'une avocate chaviste nommée mardi vice-procureure et appelée à la remplacer si elle était destituée.
Des habitants du centre des Philippines se sont précipités hors de leur domicile dans la nuit de jeudi à vendredi paniqués par les répliques du séisme de la veille qui a fait 2 morts et 72 blessés, selon les autorités. Les sauveteurs sont parvenus à retirer 13 personnes coincées dans un bâtiment commercial qui s'est effondré dans la ville de Kananga, sur l'île de Leyte, sous l'effet de la secousse d'une magnitude de 6,5. 3 provinces étaient vendredi sans électricité et les écoles de Leyte sont demeurées fermées. La Minute Éco, Blanche Senou.
Ouvert à Paris jusqu'au 7 juillet, la Fondation Africa France et l'Agence française de développement forment la première promotion des jeunes leaders, une initiative qui vise à promouvoir une nouvelle génération de femmes et d'hommes d'affaires travaillant sur le continent africain. Sélectionnés parmi 569 candidats, 20 créateurs d'entreprises ou cadres du grand groupe sont venus de 13 pays. Au Niger, Aziz Kountché a lancé un drone à tout faire. Petit-fils de l'ancien président Séni Kountché, il est à la tête de Drone Africa Service depuis 2016. Une start-up unique dans la sous-région qui affiche un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 20 000 euros. La compagnie propose des services de cartographie, des relevés d'inspection, la surveillance des aires protégées et la communication avec un prix moyen d'une prestation de 500 euros la journée. Un rapport de 2 centres britanniques de recherche nous fournit un aperçu de la performance économique du Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Angola. Selon ce rapport, le Kenya a considérablement bénéficié d'une croissance forte de ses partenaires régionaux comme l'Ouganda qui reçoit 11% des exportations kenyanes en 2016 et 41% vers le continent africain.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les derniers matchs des phases de poule se jouent aujourd'hui en Ligue africaine des champions.
Tout à fait. Premier qualifié pour les quarts de finale dans le groupe A, l'étoile du Sahel reçoit sans pression Al-Merrikh du Soudan, deuxième avec 7 points. Les Soudanais ne devraient pas se louper car les Mozambicains du Ferroviário de Beira, en embuscade derrière 5 points, tenteront le tout pour le tout chez le dernier Al-Hilal du Soudan.
Un match nul suffit au club africain et à Kampala City pour se qualifier en Coupe CAF.
Effectivement, Idrissa, leader du groupe A avec 9 points chacun, Club africain de Tunis et Kampala City d'Ouganda s'affrontent en Tunisie pour un précieux point qui les qualifierait sans crainte. Mais bien avant, Fus de Rabat River United du Nigeria à égalité de points derrière, 6 unités chacun, devraient non seulement gagner mais aussi compter sur une hypothétique défaite dans le choc entre Club africain et Kampala City.
Abdulrazak Alfaga accueilli en roi à Niamey.
Oui, le Nigérien, champion du monde des plus de 87 kilos en taekwondo, lors des derniers championnats mondiaux en Corée du Sud, a été salué par les populations et les autorités. Désormais numéro 1 mondial du taekwondo, Abdulrazak Alfaga promet de garder cette position jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. À Munju, en Corée, il n'a pas seulement été champion de sa catégorie, il a aussi été élu meilleur combattant de la compétition. Le jeune champion de 21 a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite du Niger.
Le tribunal fédéral suisse a confirmé la suspension de Michel Platini.
Cet exact Idrissa, l'ex-patron de l'UEFA, 61 ans, avait été suspendu 8 ans fin décembre 2015 par la justice interne de la FIFA pour un paiement de 1,8 million d'euros reçu de Sepp Blatter, ex-président de la FIFA. Cette suspension, qui l'a empêché de briguer la présidence de l'instance mondiale du football, a ensuite été réduite à 6 ans en appel, puis à 4 ans par le tribunal arbitral du sport. L'ancien capitaine des Bleus avait saisi le tribunal fédéral suisse pour contester cette suspension. Il pourrait désormais en théorie reprendre une activité liée au football à la fin 2019.
Le tribunal arbitral du sport a rejeté la demande de réintégration de Pete Sagan.
Oui, accusé d'avoir sérieusement mis en danger d'autres coureurs, le Slovaque avait été exclu du Tour de France par le jury des commissaires. Pete Sagan et son équipe avaient saisi le TAS, plus haute juridiction sportive, pour faire annuler la décision du jury des commissaires. Le TAS a rejeté cette demande. De ce fait, Peter Sagan reste exclu du Tour de France 2017.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, multiplication ces derniers jours des attentats suicides des islamistes nigérians de Boko Haram. C'est ainsi que depuis samedi, trois localités situées près de la frontière avec le Nigeria ont subi des attaques meurtrières. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Mora, dans l'extrême nord camerounais, repris ici par Lionel Gahima.
En une semaine, plusieurs attentats suicides ont frappé les communautés camerounaises de Femeka, Mora et Kerawa, près de la frontière nigériane. Des responsables militaires et le gouverneur de la région affirment que ces attaques ont fait au moins 20 morts, dont 9 kamikazes. D'après Mabouwa Isaac, chef du groupe d'autodéfense de Kerawa, une centaine d'habitants ont fui le village depuis l'attaque samedi dernier.
On a dit « Oh, stoppez-vous ». Les femmes ont commencé à trembler, elles ont commencé à avoir peur. Et puis on a commencé donc à les jeter avec les cailloux et les frontes. Elles s'est blessées, elles s'est fatiguées. Bon, elle aussi, elle-même, elle est en train de détacher. Et puis certaines de nos camarades sont venues l'arrêter par derrière.
Un adolescent de 17 ans a été arrêté parmi les assaillants et remis à l'armée camerounaise. Mais deux femmes du groupe ont réussi à se faire exploser, tuant 4 personnes. Les attaques suicides ont repris depuis fin mai, une augmentation qui a coïncidé avec le mois du Ramadan. Pour les hauts gradés de l'armée, cette recrudescence est aussi liée aux opérations militaires en cours le long de la frontière. Le mois dernier, le général nigérian Lakilio Irabor a pris le commandement d'une force multinationale de 7000 hommes. Depuis, ses troupes ont organisé des raids sur les dernières poches contrôlées par Boko Haram afin d'éradiquer le terrorisme le plus vite possible. Ma priorité est de bâtir sur le succès, m'assurer que le partenariat qui existe est renforcé et naturellement, comme la menace est dynamique, nous devons trouver des nouveaux moyens pour faire face à ces défis changeants. Pour le commandant des troupes camerounaises au sein de cette force régionale, le général Bouba Dobekrio, certains kamikazes ont pu s'échapper pendant des raids et entrer au Cameroun déguisés en réfugiés ou comme des personnes déplacées.
Il y a actuellement un afflux massif des réfugiés vers le Cameroun que nous allons conduire au Nigeria avec leur appui. Nous avons récupéré beaucoup de matériel détruit, le dépôt de munitions de Boko Haram, nous avons détruit les véhicules.
Le gouvernement de Yaoundé dit avoir déployé plus de troupes le long de la frontière et fourni plus de matériel de communication au groupe d'autodéfense afin qu'il puisse signaler toute activité suspecte. Le conflit avec Boko Haram a déplacé près de 200 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, dans le nord du Cameroun qui abrite aussi quelques 75 000 réfugiés nigérians ayant traversé la frontière pour échapper aux violences.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, c'est la période des concours d'accès à la fonction publique, mais très peu d'élèves et d'étudiants candidats à ces concours croient en leurs chances de réussite. Selon eux, la corruption a pris le dessus sur le mérite. Précision de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle et est convaincu. Pour être admis à un concours d'accès à la fonction publique, il faut délier les cordons de la bourse, payer de l'argent pour espérer être sur la liste des élus. Augustin Siri est étudiant.
Par rapport à ma fiancée, nous, qui est rentrée au concours CAFOP, j'étais obligé de pousser une somme de 400 000 francs CFA. Auparavant, à 3 reprises, j'avais payé, elle avait échoué. Mais cette fois, l'année dernière, j'ai payé 400 000 francs encore, puis voilà, elle a été admise à son concours.
Autre témoignage, celui de Kouébi qui explique ici différents échecs.
Auparavant, j'ai présenté le concours de jeune Amérique, qui n'a pas marché. Et également le CAFOP, qui n'a pas marché. Mais je connais des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu le concours. Donc je suppose qu'en Côte d'Ivoire ici, les méritants n'ont pas le concours. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le concours.
Donc vous pensez que si vous aviez donné de l'argent, vous seriez admis?
Il y a payé de l'argent, mais il y a aussi à qui payer de l'argent. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment trouver.
Après plusieurs échecs, Kouébi a décidé de ne plus remettre mettre le couvert.
Bon, j'ai arrêté le concours parce que je pense que c'est inutile, puisque je n'ai pas d'argent et puis je n'ai pas la bonne personne à qui il faut donner. Donc, mieux vaut ne pas me fatiguer avec le prix que j'ai.
Les témoignages sont nombreux et la pratique, dit-on, ne date pas d'aujourd'hui. Les concours les plus prisés sont ceux relatifs à l'école de la police, l'école de la gendarmerie ou encore le CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, l'école qui forme les enseignants et éducateurs du scolaire. Yeo Poruban est fonctionnaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fini par avoir gain de cause sans avoir, dit-il, déboursé le moindre centime.
Pour un concours de 50 à 20 places, on a des milliers de candidats. Pour 50 places, il y a des milliers de candidats. Ça dit qu'il y a des milliers aussi qui vont perdre. Et comme ça, on se dit que c'est par voie de corruption, il faut payer pour être admis.
À la direction des examens et concours, la DECO, on réfute l'existence d'une filière liée à la corruption. Cependant, certains de nos interlocuteurs admettent avoir eu vent de cette pratique. En attendant que les choses changent, Augustin Siri veut lancer ce cri de cœur.
C'est un cri de cœur pour nous, les pauvres, qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer le concours. C'est difficile pour nous. Arrivé à un certain âge, les parents ne s'occupent plus de vous. Vous avez de vous-même vous prendre en charge. On nous avait dit que ça allait gâter des chances. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là.
Alassane Ouattara avait promis une lutte sans merci contre ces pratiques. La réalité est tout autre, 6 ans après son avènement au pouvoir. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le système éducatif est aussi dans la tourmente après le concours général et les épreuves anticipées de philosophie. L'examen du baccalauréat est entaché de soupçons de fraude. Les épreuves de français, d'histoire et de géographie se sont retrouvées entre les mains des candidats via les réseaux sociaux. D'où viennent les fuites et qui en sont les auteurs? Autant de questions auxquelles les autorités tentent de répondre. De Dakar, reportage de Seydina Abagui.
Au lycée Blaise Diagne de Dakar, les candidats sont désorientés. Sous le couvert de l'anonymat, ils confient leur détresse.
On n'y peut rien, nous sommes des candidats. On nous oblige de faire telle épreuve. Nous, on est là pour faire les épreuves. On n'y peut rien, on attend. Mais carrément, nous sommes perturbés le fait d'arrêter les examens là et les épreuves. Ah, vraiment, nous sommes découragés, carrément. Nous sommes perturbés parce que nous à L1, vous le connaissez, comme le français, c'est une matière dominante pour nous.
Ce candidat avoue avoir eu accès aux épreuves bien avant le début de l'examen.
Ah, pour dire vrai, j'ai été déçu parce que bien avant les épreuves, j'avais appris qu'il y avait une fuite au niveau du français, de l'histoire géo et l'anglais. Donc lorsque je faisais le résumé, le président du jury est venu et par la suite, il a dit qu'on va annuler les épreuves et tout. Mais j'ai peur que cela gâche notre réputation, pour dire vrai. Parce qu'on peut dire, ce gars a eu le bac en 2017, donc les épreuves de 2017 ont été fuitées, donc le bac n'est pas valable. Donc il n'y a pas de valeur.
Pour rétablir la crédibilité du baccalauréat, cette jeune candidate demande la reprise pure et simple de toutes les épreuves.
Je me sens un peu vexée, quoi, vraiment, parce que je ne m'y attendais pas. Je croyais qu'on allait venir faire les épreuves et repartir, quoi, vraiment. Bah, c'est une perte de temps parce que on a passé presque des nuits et des nuits à réviser et là, on vient, on nous dit qu'on va reprendre les épreuves. On n'a pas le temps. Par exemple, si on veut aller à l'étranger pour continuer nos études, ils vont nous dire que notre diplôme n'est pas valable parce que il y avait fuite. Ça ne nous arrange pas aussi. Faut refaire ça.
En poste depuis 2001, le directeur de l'office du baccalauréat a déclaré publiquement qu'il ne démissionnera pas malgré ce scandale inédit dans l'organisation du bac. Il a par ailleurs annoncé la reprise des épreuves touchées par les fuites ce lundi 10 juillet 2017. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, la semaine du 3 au 9 juillet est dédiée aux cérémonies de purification du pays. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu hier la grande cérémonie des religions traditionnelles à Lomé, plus précisément sur la berge de la lagune de la capitale. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
C'est sous une fine pluie que les rites de purification se sont déroulés sur la berge de la lagune de Bain, un site choisi par les divinités pour son symbolisme nous explique Sidali Zigui, prêtresse de la forêt sacrée de Bain. Cette lagune représente l'essence même de notre communauté. Donc c'est de bon ton que la cérémonie de purification se déroule sur la berge de ce cours d'eau. En plus, au début du processus de démocratisation du Togo, des dizaines de personnes ont été tuées et jetées dans la lagune. Nous avons repêché à l'époque 47 corps au total. Par cette cérémonie, nous avons apaisé leur âme afin qu'ils rejoignent le séjour des morts en paix. Nous avons purifié le pays, que ces actes ignobles ne se reproduisent plus. La semaine du 3 au 9 juillet a été retenue par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale Hachkoun pour diverses cérémonies religieuses, à savoir chrétiennes, musulmanes et traditionnelles, pour un seul et même but. Awanana Daboya, présidente du Hachkoun.
Des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs maîtres, à tous regarder devant et à œuvrer pour le bien vivre ensemble.
Lors de la cérémonie traditionnelle, l'oracle Gouda Gagla Boloso est revenu sur les rivalités qui opposent les Togolais. Foga Vignon, natif de Bay, délivre le message de l'oracle.
Gouda Gagla Boloso, l'oracle, dit que il y a toujours question de rivalité, le problème de qui est plus puissant que qui. Et l'oracle demande de faire des cérémonies pour apaiser les mauvais esprits. L'oracle dit qu'il y a eu des promesses non tenues. La promesse est faite où, à quel endroit, à quel niveau ils vont continuer à chercher pour conjurer ce mal.
Les garants des us et coutumes ont appelé les Togolais à plus de fraternité afin de garantir la non-répétition des violences qui ont émaillé l'histoire du pays. Togbui Asiobo Nyaglonjo III, président de la Confédération des prêtres traditionnels du Togo.
Je ne pense pas qu'il y aura encore des tueries dans ce pays. Nous allons faire les cérémonies traditionnelles comme les ancêtres nous ont demandé. Mais le reste à la population aussi de ne pas se donner à des provocations.
On te donne des ordres, on ne te dit pas d'aller tirer sur les gens. On te dit d'aller faire un maintien d'ordre. On ne t'a pas dit d'aller tuer les gens.
Mais ce que nous faisons, nous savons et nous pensons que les tueries ne vont plus se répéter dans ce pays.
Le message ainsi livré, les rites se sont poursuivis avec l'immolation d'un bouc et d'une poule. Les adeptes de la forêt sacrée ont de leur côté procédé à la libation et à la bénédiction de la foule avec de l'eau bénite. La cérémonie de bénédiction a mis fin au rite de purification sur la berge de la lagune de Bain. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Mintou de RM Show en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Retrouvez-moi chaque dimanche pour écouter de la bonne musique hip-hop. Oui, l'hip-hop, c'est chaque dimanche entre 20h et 21h. De Universel dans RM Show, vous allez déguster de la bonne musique hip-hop. Pas seulement des États-Unis, de l'Europe, d'Afrique, tout le monde fait hip-hop aujourd'hui. RM Show, c'est chaque jour à 20h. De Universel sur VOA Afrique. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter aussi au 001-202-205-2633. Vous pouvez nous envoyer aussi des messages WhatsApp ou Viber au 001-703-350-3731. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde. d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Loumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.